ils avaient un schéma technique qu'ils sont venus donc appliquer en Afrique de façon générale. Et donc, dès 82-83 environ, le Sénégal était entré dans ce qu'on appelle l'ajustement structurel, c'est-à-dire donc un rectificatif à long et moyen terme, parce que le concept structurel a une connotation de longue durée. Désormais, le Sénégal était presque géré par les recettes de l'extérieur. Je parle de recettes politiques, de recettes de management. Et donc, c'était un dictat que la Banque mondiale et les FMI vont appliquer au Sénégal. Nous conseillant d'abord de céder les entreprises industrielles, on a dû donc privatiser et quelques entreprises, dont la SAIB. On a enlevé l'ONCAD. L'ONCAD qui était une structure de gestion un peu de la chose agricole. Ensuite, on nous a obligés à enlever une caisse qui s'appelait à l'époque caisse de stabilisation et de péréquation des prix. Cela veut dire que cette caisse-là était pour l'État une entreprise commerciale qui vendait le sucre, certainement tous les autres produits comme le riz, et les subventionnait, tel que l'État jusqu'à ce moment pouvait stabiliser les prix.
Parallèlement à...
L'éducation des Africains pose-t-elle problème ? Petite quiz pour les auditeurs du guide. Oui, aujourd'hui on attaque direct. Quelle est selon vous la ressource la plus précieuse au monde ? Quelle est la ressource la plus inépuisable qui vous survit même après la mort ? 1, 2, 3. Bon, je donne la réponse. C'est la matière noire ou matière grise si vous préférez. C'est la chose la plus précieuse car même après votre mort, elle peut se transmettre. Vous pouvez la transmettre. Oui, oui. On dira, tiens, ce garçon est aussi intelligent que son père. Ah, il est plus intelligent que son père. Cette fille est aussi avisée que sa mère, etc. Comme je vous le dis souvent dans ce podcast, la pensée voyage. Votre cerveau est donc transmissible. Certes, pas physiquement, mais la matière noire qu'elle contient, car nous sommes connectés les uns aux autres via le Noun. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment cette maxime du grand frère pourrait-elle être effective si nous n'étions pas connectés les uns aux autres? Cet épisode, eh bien, j'aimerais le dédier à Kalala Omotunde. L'homme qui démontra par son existence que la connaissance n'est pas un lieu commun où on enferme l'être. Spécialiste en communication, Kalala Omotunde passe pour un maître dans l'éducation et la pédagogie ancestrale. Force à toi, Ka, sois vivifié. Lorsque je parle, en tout cas lorsque on parle d'éducation en Afrique, la première impression qui frappe est qu'elle n'est pas compétitive. C'est le mot poli pour dire « ça ne vaut rien ». De facto, il est admis un consensus sur la mauvaise qualité de la formation des Africains. On considère donc que si le continent va mal, c'est bien que les Africains ne sont pas correctement formés, raison pour laquelle ils sont incapables de faire changer le destin de ce continent pourtant si riche. Mon grand-père disait toujours qu'une partie de l'histoire n'a jamais été révélée. Et c'est ce que je m'apprête à faire aujourd'hui. Jambo à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast, ton manuel audio dédié à l'histoire, la culture, la politique et la géopolitique du grand continent. Ce podcast, eh bien, sert à valoriser ce que nous avons de meilleur. Jambo, comme pour te passer le bonjour en Swahili. C'est Arleno qui te parle. Commandant de bord de cette mission. Merci à ceux qui voyagent avec nous depuis le début. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Sachez que votre soutien est fortement apprécié. Nous publions notre actualité sur Twitter, Instagram. N'hésitez donc pas à nous y suivre afin de participer ensemble à la grande dynamique d'éveil des consciences et de promotion des peuples africains et de sa diaspora. Nous sommes en 2023 et l'Afrique, c'est toujours chic. Avant d'embarquer, je te propose un petit apéritif depuis le salon VIP. Et oui, ici, on voyage en business. L'éducation, c'est de ça qu'il s'agit dans cet épisode. Imaginez-vous un instant que depuis votre entrée en maternelle, vous soyez habitué à colorier des groseilles, des murs, des squares, et que votre livre d'éducation s'appelle non pas Mamadou et Binetta, ou Awa et Tierno, mais plutôt l'école des tout-petits, et que Annette et son petit frère Alain, ce sont des exemples, hein, soient vos guides dans les espaces géographiques de la Bourgogne ou des Alpes. Quelle serait votre capitale sympathie pour votre propre pays et pour l'éducation qui vous est servie? Maintenant, respirez et imaginez qu'au cours d'une sinistre période appelée crise économique mondiale, enfin mondiale, c'est le qualificatif attribué lorsqu'on veut injustement faire cotiser les Africains, hein, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas au début de l'affaire. Ça s'appelle simplement du racket, voilà. Donc, au début de cette crise, de cette période, pardon, d'après-guerre, jusqu'en 73, on assiste au choc pétrolier. Les économies sont en berne en raison de l'augmentation du simple au double du baril du pétrole dont sont dépendantes les économies occidentales, majoritairement. C'est donc naturellement que les économies des pays africains fortement, eux, dépendants des exportations des produits de rente, café, cacao, etc., subissent le contre-coup de ce choc. Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez apprécié ce petit apéro depuis votre salon VIP et que vous êtes bien installés. Attention au décollage. Un peu de contexte pour te bien situer sur le système éducatif en Afrique d'influence francophone. Oui, ce sera notre cas de ce jour, ce qu'on appelle vulgairement l'Afrique francophone. Autrefois, dans la zone d'influence française, pour intégrer l'école, il fallait être chrétien. Oui, dès lors, si vous apparteniez à un peuple qui pratique encore le culte des ancêtres, il vous fallait régner cet état de fait, en tout cas en apparence, et accepter Jésus. Et là, j'ouvre une parenthèse. Oui, ce Jésus que les missionnaires avaient emporté avec eux d'Europe. Loin de moi l'idée de contester ou de fustiger la foi de qui que ce soit, mais il est en fait établi que le Dieu des missionnaires n'a rien à voir avec celui qui était enseigné en Éthiopie, donc en Afrique, avant les conquêtes coloniales. Oui, oui. Il faut savoir que ce ne sont pas les missionnaires qui ont introduit le christianisme en Afrique. Non. Il était bien présent en Égypte, puis en Éthiopie, longtemps avant l'arrivée des colons missionnaires. Et si vous m'entendez parler du Christ véritable assez souvent, c'est à cela que je fais référence. On parlera de 10 siècles avant le christianisme. Autant dire qu'il ne s'agit pas d'une affaire nouvelle. J'insiste donc sur le terme romain. Oui, quand je parle du christianisme, qui a une connotation spécifique en géopolitique. Bon, je referme la parenthèse. Vint alors, après les écoles religieuses, l'école laïque popularisée par Fedeb. Fedeb qui était un gouverneur militaire du Sénégal, d'Afrique occidentale. Donc, l'école laïque sera ouverte au début, en cours du soir, aux jeunes de Saint-Louis exclusivement. Hélas, contrairement à ce qu'on peut dire sur le fait que l'Occident nous aurait apporté l'instruction, sachez que les Africains n'étaient pas très motivés au départ à l'idée d'envoyer leurs enfants dans les écoles qui étaient plus des geôles mentales que des espaces d'éducation. Et au dire d'un rapport de l'UNESCO, du 6 novembre 93, intitulé rapport 6 novembre 93, ajustement structurel, éducation et alphabétisation au Sénégal, la création d'écoles publiques devait accompagner l'expansion militaire. Allô? Comment une école censée accompagner l'expansion militaire, donc une entreprise de colonisation, peut-elle être considérée comme positive? Je me demande. Un siècle plus tard, après la colonisation, on notait que 12% de la population scolarisable, en tout cas ce qui est pas très significatif, avait été intégré dans les écoles. Ce qui veut simplement mettre en évidence la résistance à laquelle s'est heurté le projet colonial à ses débuts. C'est dire que bien avant, les Africains avaient foi en leur système de valeurs et qu'ils n'étaient guère séduits par le modèle européen, notamment en ce qui concerne les populations Mende qui, comme je l'ai rappelé dans l'épisode numéro 10 et épisode numéro 11 de ce podcast, à ses débuts, étaient réfractaires à envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils étaient résolument opposés au châtiment corporel, lequel châtiment corporel a été intégré justement par l'école occidentale. L'école donc calquée sur le modèle colonial, du coup un modèle importé, continuait à véhiculer des concepts étranges aux populations autochtones. Eh bien, c'est cette même école qui a été reconduite au moment des indépendances. Ladies and gentlemen, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous traversons quelques zones de turbulence. Je vous remercie donc de rester assis et de garder votre ceinture attachée. Je profite de cette annonce pour informer que les dates des 24 et 25 novembre 2023 ont été retenues pour les universités du panafricanisme, une journée de militantisme, de rencontres, d'échanges de la grande galaxie panafricaine de la diaspora et du continent. Des invités triés sur le volet parmi les plus intéressants. Le lien Eloasso de la Ligue panafricaine Umoja est déjà disponible dans la bio. N'hésitez donc pas à vous inscrire car les places sont limitées. Il faut donc savoir que l'éducation étant un bien rentable et non un bien de consommation, pour nous, cette phrase résonne comme un coup de massue sur une enclume. Oui, l'éducation est un bien rentable et non un bien de consommation. Pourquoi ? Parce que ce bruit strident rappelle à quel point l'éducation dans nos pays est devenue un bien de consommation. Un bien imposé aux populations malgré elles. En effet, si vous êtes motivé pour intégrer une fac de droit, notamment, les chances pour que vous vous retrouviez en philosophie ou lettres modernes davantage sont davantage élevées. Lors même que vous comptiez dans votre bulletin les notes requises, il est important pour nous de contextualiser un peu afin d'être bien situé sur notre thématique du jour. En effet, je suis là d'entendre dire que notre retard est dû à notre manque de travail. C'est clairement ça mérite. Ça mérite et ça m'agace. Car vous le savez, le nègre n'a que trop travaillé, comme le rappelle la prière du petit enfant nègre de Guy Tyrolien. Travailler dans les champs, travailler sur les routes, travailler sur les chemins de fer du Congo Pacifique, etc., etc. C'est donc une insulte que je prends personnellement à chaque fois, tant les pays qu'ils prennent, en tout cas je veux dire que ces personnes la prennent pour référence, ont opéré un bond en avant dans la civilisation par le sang et la sueur du nègre. Oui, oui, donc attention. Attention, car la prochaine fois, je sors le carton rouge contre ces inconséquents. Ils font preuve d'une inconsistance et d'une inconséquence patente, car il faut le dire, notre retard n'est pas dû à notre manque de travail. Notre retard est dû à certaines causes que je vais continuer d'énumérer dans ce podcast. Il faut savoir qu'en 1961, à Addis Abeba, nos pères fondateurs ont pris sur eux de tenir une conférence sur les états généraux de l'éducation en Afrique. C'est une étape fondatrice qui est malheureusement ignorée dans la résolution d'un problème africain par les Africains. Malgré le faible niveau de formation des maîtres, et oui, il faut dire que 12% du taux d'alphabétisation sous la colonisation, ce n'est pas vraiment énorme. C'est donc que les Africains prennent sur eux leur destin en main pour renforcer les capacités. On parle alors de 20 à 30% du taux d'alphabétisation entre 60 et 68, ce qui est très encourageant. Bon, pour ceux qui sont originaires du continent, tous sont d'accord pour dire que l'après-indépendance est l'âge d'or de l'éducation en Afrique d'expression francophone notamment, parce que nos pères en ont bénéficié et c'est une expérience qui nous a été rapportée par ces derniers. Il s'agit, en déplaise en tout cas aux réactionnaires, d'une volonté des Africains réunis à Addis Abeba de renforcer les capacités des hommes et des femmes du continent et de les préparer aux grands défis à venir. C'est le cas. Donc il s'agissait alors d'une éducation à vocation africaine. Par exemple, en 1971, le Sénégal prend une loi d'orientation définissant une nouvelle école. Voilà, le but était d'élever le niveau culturel des hommes et des femmes libres capables de contribuer au développement et d'apporter des solutions aux problèmes techniques. Le Sénégal introduit ainsi dans cette réforme un système d'alternance en théorie et pratique appelé enseignement moyen pratique. Oui, oui. Une alternance déjà dans ces années-là. Le but étant d'enraciner l'élève dans son milieu, d'éviter l'exode rural qui, je le rappelle, est né, j'ouvre les guillemets, de l'inadéquation de l'ancien système éducatif hérité de la colonisation au contexte socio-économique. Allô ? Ce ne sont pas nos États qui ont créé le concept d'exode rural, non. L'exode rural est une conséquence directe de la colonisation. Tout ça pour dire que l'un des buts, en tout cas l'un des buts de la réforme de 71 au Sénégal était de placer aussi les langues au cœur de l'éducation et les revaloriser, les réhabiliter afin de les introduire dans le système éducatif. Je répète, l'un des buts de la réforme de 71 au Sénégal était de placer les langues au cœur de l'éducation et de les revaloriser, de les réhabiliter afin de les introduire dans le système éducatif. Donc les commentaires qui fusent, qui disent que les Africains font preuve d'une inconséquence, ils sont incapables de réformer leur système éducatif, bon, j'ai envie de leur dire, je vous sors le carton jaune, tout simplement. Le cas du Sénégal que nous présentons ici n'est pas singulier, tant il peut être étendu de façon plus globale à la situation des autres pays de la zone dites francophones, simplement parce qu'elles subissent quasi toutes, au début des années 90, les mêmes restrictions liées aux bailleurs de fonds. Et là, j'entame la deuxième partie de ce podcast, hein, que je vous invite à retrouver dans le prochain épisode. J'espère que jusque-là, tout va bien. Aujourd'hui, tu voyages en business, tout est donc mis en œuvre et j'espère que tu apprécies ton vol. Alors abonne-toi, partage, mets-y un pouce et surtout parle-en autour de toi. Parle-en autour de toi pour vulgariser un récit authentique sur l'Afrique et sa diaspora. Un récit authentique sur le grand continent. L'Afrique a laissé à ses enfants un héritage immense pour assurer sa puissance. L'Afrique a fait le choix de revenir sur la grande scène de l'histoire, lieu de brassage des valeurs humaines partagées, et des grands défis civilisationnels. Ça se passe à Paris, à Grenoble, à Lyon, à Toulouse, en Belgique, au Mali, en Guinée, au Burkina et dans les Antilles. Désormais, le grand continent refuse le mépris généralisé. Et comme le dit mon grand-père, Zokwezo, un homme vaut un homme. Je suis Arleno, commandant de bord de cette mission, et je m'adresse à toi. Le panafricanisme est la philosophie de notre survie. Alors prends soin de toi car nous sommes le monde. Et n'oublie pas la suite dans le prochain épisode avec une surprise.